tout de suite, c'est le journal d'Antoine Marette. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La protestation se poursuit dans les universités. 4 universités sont toujours bloquées depuis hier soir. C'est au tour du bâtiment principal de Sciences Po Paris d'être occupé. Contestation également chez les cheminots. Ils entament aujourd'hui leur 4e épisode de grève depuis le début du mois. Mais la mobilisation est en légère baisse. La proposition de loi sur le secret des affaires arrive aujourd'hui devant le Sénat. Ce texte vise à renforcer la protection des informations au sein des entreprises. Mais il inquiète les lanceurs d'alerte. Nous en parlerons avec l'invité de cette édition, la journaliste Élise Lucet. Dans l'actualité internationale, cette information révélée par le Washington Post, le directeur de la CIA a effectué une visite secrète à Pyongyang lors du week-end de Pâques. Selon le quotidien américain, il y a rencontré le dirigeant nord-coréen. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert.
Alors, des réformes et des mobilisations sociales, journée spéciale, service public sur France Culture. On va aborder cette question sous l'angle de la culture avec notre invité Jérôme Clément, ancien président de la Fondation Alliance Française, ancien président d'Arte et du CNC. Il revient avec Brève histoire de la culture chez Grasset. Il sera avec nous jusqu'à 13h30.
À tout à l'heure. Rennes, Strasbourg, Tolbiac, ces facultés sont encore actuellement bloquées par les étudiants opposés à la loi Vidal. 4 universités sont d'ailleurs toujours bloquées, 10 sont perturbées. La mobilisation a aussi pris depuis plusieurs semaines chez les professeurs et les enseignants qui, comme les étudiants, sont opposés à la sélection à l'entrée à l'université. Les candidatures sont arrivées dans des universités au début du mois. Bonjour Mathilde Erard.
Bonjour.
Certains professeurs ne se contentent pas de manifester, ils refusent de trier les dossiers des lycéens.
Ce n'est pas aux enseignants de faire le tri, dénonce Christelle Marchand, maître de conférences en sciences politiques à l'université d'Avignon. Ce matin, les enseignants de la faculté d'administration économique et sociale de cette université ont démissionné, ont refusé de classer les dossiers de candidature. C'est une information de France Bleu Vaucluse. Pour une enseignante, impossible de classer plus de 1200 demandes avant le 18 mai. C'est plus de 200 heures de travail, soit 10 minutes par dossier, déclare-t-elle. L'université d'Avignon n'est pas un cas isolé. À Lyon 2, la présidente Nathalie Dompier a proposé jeudi dernier dans un communiqué d'accepter sans condition toutes les candidatures, tout baccalauréat confondu, dans les filières qui ne sont pas sous tension. Tous les vœux sont classés ex aequo. La présidence de la faculté de Bordeaux-Montaigne a pris la même décision. Alors, certains enseignants refusent de trier les dossiers, veulent accepter tous les étudiants. Cela paraît possible dans les petites et moyennes universités où la plupart des filières ne sont pas en tension. Mais comment faire pour les plus grosses universités comme en histoire à Paris 1 où on enregistre 2000 demandes pour seulement 620 places? Alors ces établissements peuvent-ils vraiment refuser d'appliquer le système Parcoursup? Pour l'heure, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a de son côté un objectif. Rajouter 22 000 places dans les filières en tension. Bien souvent c'est la fac de sport, STAPS, médecine ou encore en droit. Et la ministre a affirmé en début de mois pouvoir financer d'ores et déjà, aujourd'hui, 19 000 places supplémentaires.
Merci Mathilde Erard. Alors, faut-il faire intervenir la police dans les facultés? C'est la question que va devoir trancher le gouvernement. Pour le vice-président de la conférence des présidents d'université, président de l'université de Lyon, Khaled Bouabdallah, il ne faut pas hésiter à recourir à la force, il l'a dit ce matin chez nos confrères de France Info.
Chaque président qui est en situation d'apprécier les choses là où il est, parce que c'est lui qui a le plus d'éléments pour le faire, mais en tout cas, dès lors qu'une situation est bloquée, dès lors qu'il y a des risques de violence, de troubles à l'ordre public, dégradation des biens, et c'est souvent le cas malheureusement, eh bien il ne faut pas hésiter à recourir à la force publique. À Lyon, ça a été fait la semaine dernière, voilà, parce qu'il y avait des troubles à l'ordre public qui étaient extrêmement importants, des violences, de la dégradation des biens, et que c'est la responsabilité des présidents que de protéger les étudiants et les biens publics. C'est un mouvement assez radical, ça c'est clair, assez radical et dans certains endroits violents ou potentiellement violents, c'est évident.
Et pendant que les étudiants protestent, les jeunes ont de plus en plus de mal à s'insérer dans la vie professionnelle. C'est la conclusion d'une enquête du Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Bonjour Louis-Valentin Lopez.
Bonjour Antoine.
La situation des jeunes sur le marché du travail s'est détériorée durant les 20 dernières années. C'est l'une des tendances fortes révélées par cette étude.
Et oui, et c'est le Saint Graal que les jeunes ont de plus en plus de mal à décrocher. Et on parle bien sûr du CDI. L'écart entre générations, il est flagrant. Les diplômés de 1998 sont 4 sur 10 à avoir trouvé rapidement leur contrat à durée indéterminée, contre seulement 3 sur 10 pour les diplômés de 2010. Alors la tendance s'inscrit dans un temps plus long. Sur les 20 dernières années, la part de jeunes dans les CDI et les fonctionnaires a baissé de 11 points, alors même qu'ils sont plus qualifiés.
Un lot de consolation, tout de même, le salaire augmente.
Oui, après 5 ans de vie active, le salaire net médian a progressé, plus 13% en 20 ans. À noter ce phénomène qui interpelle, un rapprochement des salaires entre les hauts diplômes, ceux qui vont au-delà en fait de la licence 3, et les titulaires d'un bac plus 2 et moins. Pourquoi ? Eh bien, à cause du contexte économique, bien sûr, du déclassement professionnel qui pénalise surtout les diplômés du supérieur, et aussi l'arrivée de jeunes femmes bardées de diplômes. Souci, eh bien, ces jeunes femmes sont toujours moins bien payées que les jeunes hommes. Même si l'écart se réduit, il était de 20% il y a 20 ans, il est aujourd'hui de 11%. C'est aussi devenu plus compliqué pour les hommes, mais en termes d'insertion, en cause le déclin de l'emploi industriel à dominante masculine au profit des services où les femmes se sont imposées.
Merci à vous, Louis-Valentin Lopez. La contestation concerne les étudiants, on l'a vu en début de ce journal, mais également les cheminots. Ils entament aujourd'hui leur 4e épisode de grève depuis le début du mois, et ce au lendemain du vote, hier soir, en première lecture à l'Assemblée nationale, du projet de réforme sur la SNCF. Ce texte prévoit notamment la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et le calendrier de l'ouverture à la concurrence. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine.
Les cheminots espère une mobilisation de très haut niveau pour amplifier le rapport de force avec le gouvernement. Mais force est de constater que le trafic est en augmentation par rapport au début de la grève.
Oui, aujourd'hui le taux de grévistes est de 32%, soit une baisse de 16 points par rapport au premier jour de grève, le 3 avril dernier. Mais ce qui pénalise encore le trafic, ce sont surtout les personnels roulants, les conducteurs, les contrôleurs et les aiguilleurs. Si le taux de grévistes reste élevé dans cette catégorie de personnel, avec encore 63% de conducteurs en grève, on constate là aussi une baisse. Puisque au début du mouvement, ils étaient 77% de conducteurs à ne pas travailler. Ce qui explique pourquoi il y a un peu plus de trains aujourd'hui, un TGV sur 3 et 2 TER sur 5. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les usagers éprouvent moins de difficultés pour aller travailler ou partir en vacances, bien au contraire. Du côté des syndicats qui dénoncent un véritable passage en force, avec le vote du projet de loi hier soir à l'Assemblée, on ne veut pas croire à une érosion du mouvement. On préfère invoquer l'effet vacances scolaires, avec les agents qui partent en congé, plus les retours de découchés qui sont nombreux, nous dit-on, du côté des syndicats en milieu de semaine. Mais chez certains conducteurs, on reconnaît sur la fiche de paye à la fin du mois, la grève commence à peser, et ce même si l'intersyndicale l'a voulu perler afin de limiter la casse d'un point de vue financier. Enfin, la détermination du gouvernement, qui indiquait qu'il ne céderait pas, plus le vote hier soir à l'Assemblée, et Matignon qui annonce il y a quelques minutes la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants le 1er janvier, autant de raisons qui font croire que les conducteurs et les agents de la SNCF commencent à avoir une certaine érosion, mais les syndicats ne veulent pas y croire.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Le ministre de la Transition écologique et solidaire va présider la réunion de reprise des négociations entre l'État et les zadistes qui aura lieu à la préfecture. On parle de Nicolas Hulot, bien sûr. Cette rencontre fait suite à la main tendue aux zadistes par la préfète vendredi dernier. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Nantes et vous l'avez constaté à Notre-Dame-des-Landes, c'est plutôt la crispation qui domine chez les zadistes avant le dialogue avec Nicolas Hulot.
Oui, des points de crispation sur certains lieux de la ZAD, toujours autour des axes routiers, et ce matin d'un lieu de vie aussi, la Grée, contrôlé par des gendarmes mobiles. Il s'agissait en fait de faciliter l'arrivée d'agents d'Enedis, ex-EDF, venus rétablir le courant dans des maisons alentours. Alors, scène habituelle de zadistes excédés par cette présence de forces de l'ordre, disent-ils. Camille, qui vit à la Grée depuis 4 ans, dialoguait pourtant avec un colonel de gendarmerie, bon, chacun dans son monde. Elle avait eu aussi au téléphone le directeur de cabinet de la préfecture, lui assurant qu'il n'y aurait pas de tentative de pénétrer à l'intérieur du lieu de vie, de quoi faire tomber quand même un tout petit peu la tension avant la réunion à 14h30 en préfecture. Un calme, en tout cas un repos du guerrier, bienvenue pour Camille.
En fait, on est fatigué après une semaine d'affrontement, on ne veut pas d'autres blessés, en fait on est à plus de 250 blessés, c'est déjà monstrueusement énorme. On a, je crois, de tous les côtés tout intérêt à ce que ça se passe bien. Je ne sais pas si on en est encore au stade où on peut parler de dialogue. Moi, j'ai l'impression que les gens de la délégation, ils vont aller parler de conditions de dialogue avant de pouvoir parler de dialogue. Pour nous, c'est quand même vraiment très compliqué d'envisager du dialogue tant qu'il y a des forces de l'ordre en mode massif. Après, comment je le sens, ben, c'est compliqué de dire. En fait, la préfecture joue la main forte de l'État. Ils sont visiblement sur une posture de montrer de la fermeté, d'être rigide et tout ça. Bon, moi, j'espère qu'ils vont essayer un peu de s'assouplir pour que, voilà, il y ait des possibilités de vraiment composer ensemble. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez mal parti, mais on va voir cet après-midi.
Alors, quelles concessions les parties sont-elles prêtes à faire cet après-midi? La préfète Nicole Klein demande la possibilité de rouvrir les axes routiers de la ZAD. Elle demande aussi une régularisation individuelle des zadistes d'ici lundi prochain. Côté zadiste, eh bien, on demande l'arrêt des hostilités et du temps aussi pour dialoguer. Lundi, l'ultimatum de lundi n'est pas tenable. Les occupants de la ZAD, bien sûr, voudraient que leur proposition d'une gestion collective du territoire de type Larzac soit à nouveau étudiée, acceptée. Une proposition rejeté jusque-là par l'État.
Merci Véronique Robérotte et merci également à Clémence Bonfils à la technique. Laurent Wauquiez réclame un référendum contre l'immigration. Le président des Républicains organise en ce moment même une convention sur ce thème à quelques jours du vote du projet de loi Asile et Migration à l'Assemblée nationale. Un texte jugé trop laxiste par le chef de file de la droite. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour Antoine, bonjour.
Vous êtes
à tous.
Pour nous en direct rue de Vaugirard à Paris où a lieu cette convention et on assiste à une véritable offensive de la droite sur l'immigration pour en quelque sorte préempter ce thème face au discours du FN.
Oui, comment réduire l'immigration? Le titre de cette convention organisée en ce moment même par les Républicains a le mérite de la clarté. Tout l'exercice de ce matin a consisté à légitimer la demande de référendum sur cette question, demande émise par le président des Républicains, Laurent Wauquiez, qui est toujours en train de s'exprimer. Cette convention, c'est un long retour sur le terrain des idées. Pour Laurent Wauquiez, la réalité du nombre s'impose. Nous avons dépassé les capacités d'accueil de notre pays. Nous avons créé notre propre problème. Il s'arrête sur les 270 000 titres de séjour délivrés l'an passé. C'est un record depuis 43 ans et c'est une folie pour Laurent Wauquiez. Il dénonce le projet de loi Asile-Immigration, évidemment, loi qui ne contient, selon lui, aucune mesure pour limiter, je cite, l'explosion de l'immigration. L'expression immigration de masse sera citée d'ailleurs quelques mots plus tard, quitte à reprendre une sémantique FN. Puis Laurent Wauquiez enchaîne sur l'immaturité de la classe politique sur ce sujet de l'immigration marquée par le sceau de l'irrationalité. Le président des Républicains qui annonce, entre autres mesures, vouloir revoir de fond en comble la politique d'aide au développement, conditionnalité de l'aide au développement liée à l'engagement des pays à reprendre leurs ressortissants, martèle-t-il. Laurent Wauquiez veut aussi expulser les délinquants étrangers et restaurer complètement la double peine. Et puis il se prononce à l'instant pour la limitation du regroupement familial. En amont de ce discours, la matinée a été marquée par un sacré effet de loupe. Le député de Mayotte, Mansour Kamardine, s'est exprimé. Je veux apporter mon témoignage. Mayotte, c'est aujourd'hui 256 000 habitants, mais la population réelle, c'est 400 000 personnes, avec un tiers de clandestins. On n'arrive plus à scolariser, on n'arrive plus à soigner. Le gouvernement a même reconnu que la maternité de Mamoudzou était la première d'Europe, déclare-t-il en ajoutant il y a un détournement évident du droit du sol. Et le député Guillaume Larrivé précise, nous avons le devoir de définir ce qu'est être français. Nous pensons qu'il ne faut pas ouvrir les vannes de la naturalisation. Mayotte, un cas particulier qui donne de la force au discours de Laurent Wauquiez qui cherche, vous l'avez dit, à reprendre l'offensive sur la loi Asile-Immigration et à couper l'herbe sous le pied du Front National.
Anne Fauquemberg avec Laurent Gros à la technique. L'épidémie hivernale de grippe s'est terminée mi-avril en France métropolitaine. Le bilan provisoire fait état de 13 000 morts. C'est moins que l'année dernière qui avait compté 14 400 décès. Dans l'actualité internationale, cette information révélée par le Washington Post, le directeur de la CIA a récemment effectué une visite secrète à Pyongyang. Il était accompagné du futur secrétaire d'État Mike Pompeo et ensemble, ils ont rencontré le dirigeant nord-coréen. Washington ne commande pas l'information, mais hier, Donald Trump a évoqué la tenue des discussions à un très haut niveau avec Kim Jong-un, qu'il doit rencontrer au mois de juin. À Séoul, les précisions de Frédéric Ojardias, correspondant de RFI pour France Culture.
C'est dans le plus grand secret que Mike Pompeo s'est rendu fin mars à Pyongyang en qualité d'émissaire de Donald Trump. Sa rencontre exceptionnelle avec Kim Jong-un, la première connue pour un haut responsable américain, vient d'être confirmée par plusieurs médias aux États-Unis. Selon le Washington Post, ce voyage visait à préparer le tête-à-tête historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu fin mai ou début juin. Ce sommet aura pour principal ordre du jour le démantèlement du programme nucléaire de la Corée du Nord. Le lieu de la rencontre n'a pas encore été décidé. 5 endroits sont en considération, a déclaré Donald Trump depuis sa propriété en Floride où il rencontrait le Premier ministre japonais. Le président américain s'est montré optimiste et il a aussi déclaré qu'il donnait, ouvrez les guillemets, sa bénédiction pour que les deux Corées discutent de l'établissement d'un traité de paix pour remplacer l'armistice de 1953. Nord et Sud sont en effet toujours techniquement en guerre depuis 7 décennies. Cette bénédiction est la réponse à de récentes déclarations de responsables sud-coréens qui ont affirmé que la fin de l'armistice serait discutée lors du sommet intercoréen prévu lui la semaine prochaine. La question d'un traité de paix avait déjà été abordée lors du précédent sommet entre Nord et Sud il y a 11 ans et elle sera conditionnée aux progrès obtenus sur le dossier nucléaire.
La disparition de Barbara Bush hier à 92 ans, celle qui fut femme puis mère de président, avait décidé d'arrêter son traitement médical. Donald Trump salue dans un communiqué la mémoire de Barbara Bush, rendant hommage, je cite, à sa solide dévotion pour son pays et sa famille, qu'elle a servi indéfectiblement bien. Midi passé de 47 minutes sur France Culture, on s'intéresse maintenant à cette proposition de loi sur le secret des affaires qui arrive aujourd'hui devant les Sénats, après avoir été adoptée sans encombre à l'Assemblée nationale. Le texte transpose une directive européenne adoptée il y a 2 ans. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Le texte vise à renforcer la protection des informations au sein des entreprises, mais il ravive les inquiétudes pour les lanceurs d'alerte et l'information des citoyens.
Oui, les informations des entreprises seront-elles mieux protégées des voleurs ou davantage cachées aux citoyens? C'est l'inquiétude soulevée par cette législation. Son objectif affiché, c'est de permettre aux entreprises de se prémunir plus fortement contre le vol de secrets industriels ou leur divulgation à des concurrents. Le problème que cela pose, c'est l'équilibre. Comment faire en sorte que les intérêts particuliers des entreprises ne soient pas défendus au détriment de l'intérêt général et de celui de l'ensemble des citoyens? Alors, que dit la proposition de loi? Elle rend illégale l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'une information répondant à 3 critères, ne pas être facilement accessible à une personne extérieure à l'entreprise, revêtir une valeur commerciale parce qu'elle est secrète et faire l'objet de mesures de protection dites raisonnables de la part de l'entreprise. Une définition très large donc. Concrètement, cela peut aller de la composition d'un médicament ou d'un aliment aux pratiques d'une entreprise en matière fiscale ou de sous-traitance. Obtenir ces informations serait donc une infraction au secret des affaires. Or, le risque, c'est que cela entre en contradiction avec des principes démocratiques, au premier rang desquels l'information des citoyens. Dans quelles conditions les scandales financiers comme LuxLeaks ou l'affaire du Mediator pourront-ils être portés à la connaissance du grand public dès lors que les entreprises auront les moyens de poursuivre en justice ceux qui les dénoncent? Le texte propose des exceptions, notamment pour défendre la liberté d'expression, insuffisante, estiment les sociétés de journalistes d'une 20aine de médias et une 50aine d'ONG, syndicats, associations. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, elles appellent entre autres à restreindre l'application du secret des affaires à ceux qui utilisent ces informations à des fins lucratives ou commerciales.
Invité de ce journal, Élise Lucet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous présentez Cache Investigation, envoyé spécial sur France 2. Vous faites partie des signataires de cette lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il vous a répondu?
Non, il ne nous a pas répondu pour l'instant. Écoutez, on a un petit espoir parce qu'on avait rencontré Emmanuel Macron il y a 2 ans, au moment justement de la directive européenne secret des affaires. Et à l'époque, il nous avait entendu. Bon, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Le texte qui est passé à l'Assemblée nationale et qui passe aujourd'hui au Sénat ne nous convient pas. Il nous inquiète. C'est la raison pour laquelle on se mobilise à nouveau. Et pas seulement des journalistes, il y a beaucoup de citoyens aussi qui se mobilisent parce qu'ils ont le sentiment que c'est tout simplement l'accès à certaines informations qui va leur être interdite par ce texte.
Question de Catherine Pétillon du service économique de France Culture.
Pourtant, je le disais, le texte prévoit des exceptions, notamment au nom de la liberté d'expression. Mmh. C'est ce que mettent en avant les promoteurs du texte et à commencer par son rapporteur, le député La République En Marche, Raphaël Gauvain. Vous, vous dites, ce n'est pas suffisant. Pourquoi?
Non, ce n'est pas suffisant parce que, si vous voulez, vous l'avez dit vous-même, les 3 critères, ils sont extrêmement flous. Et donc, pour le coup, le secret des affaires, comme il n'est pas bien défini, on se dit que n'importe quelle entreprise... Je vais prendre des exemples concrets. Nous, dans Cache Investigation, Libération, on a fait une enquête sur les multinationales du tabac. À un moment, moi, je me suis retrouvée à aller interviewer un très grand responsable de Philip Morris. Ça nous a pris des mois pour avoir cette interview. Quand je fais cette interview, moi, je lui montre pendant l'interview des documents confidentiels de Philip Morris. Philip Morris, objectivement, aujourd'hui, avec ce texte, pourrait considérer que ces documents font partie de son secret des affaires. Et donc, pourrait même, avant la diffusion de l'émission, engager une procédure judiciaire pour tenter d'interdire la diffusion de cette émission. Aujourd'hui, on a des procédures judiciaires, parfois des référés ou parfois des procès post-diffusion, mais on n'est pas dans un système où quand on va interviewer quelqu'un en lui montrant des documents confidentiels, il peut s'appuyer sur cette interview pour déclencher une procédure judiciaire avant même la diffusion d'une émission.
Cette nouveauté qu'introduit le texte, le fait, vous dites souvent, il y a des enquêtes qu'on ne pourrait plus voir venir à l'antenne, que ce soit en amont.
Oui, je pense, parce que par exemple sur le LuxLeaks, pareil, moi je me suis retrouvée face au responsable de PricewaterhouseCoopers avant la diffusion, donc on se dit PricewaterhouseCoopers se rend compte qu'on a des documents extrêmement confidentiels, là pour le coup, sur l'évasion fiscale, l'organisation de l'optimisation fiscale, et ils peuvent très bien dire, mais attendez, c'est secret des affaires pour nous, c'est un cabinet d'avocats mondialement connu qui organise ça pour ses clients, on est typiquement dans le secret des affaires. Nous, on a, et très franchement, c'est clair pour nous tous, aucune opposition à ce que les entreprises se protègent. Sur des brevets, sur des secrets industriels, c'est tout à fait nécessaire pour que l'économie française se porte bien par rapport à ses concurrents. C'est tout à fait normal. Mais quand on commence à dire, et quand on commence à parler de ces critères que vous avez cités qui sont si flous, ben on se dit que oui, toute l'organisation fiscale d'une entreprise peut rentrer dans le secret des affaires. LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. On se dit que, et oui, dans l'affaire du Mediator, on aurait pu être bloqué. On se dit que là, dans le dernier cash investigation sur les marchés de l'eau, on aurait pu être bloqué parce qu'on a des documents confidentiels.
Très concrètement, ce serait quoi les risques juridiques pour une entreprise de presse, une société de production ?
Alors, il y a deux choses qui nous font très très peur. C'est le fait, de nous attaquer et surtout de demander des dommages et intérêts qui peuvent être colossaux. On parle parfois de 800 000 euros. Bon, France Télévisions, Radio France, ce sont des sociétés de presse qui sont extrêmement solides. Mais vous savez, par exemple, que cash investigation est réalisé dans une société de production qui s'appelle Première Ligne Télévision. Imaginons qu'à un moment, il y ait une demande de dommages et intérêts de 800 000 euros. Ça met complètement en péril cette société de production. Et il y en a beaucoup dans Paris qui pourraient tout simplement être tentés de ne plus s'engager dans ce genre d'enquête en raison des risques financiers et des risques judiciaires.
Ça veut dire que...
Deuxième risque, pardonnez-moi aussi. Nous, il y a quelque chose qui nous fait très très peur. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit qu'il faut, nous, on va se retrouver dans la position de devoir prouver, un, qu'on travaille dans le sens de l'intérêt général et qu'on est apte à le faire. Ça s'applique à la fois pour nous et pour les lanceurs d'alerte. Bon, c'est toujours compliqué de juger ce que c'est que l'intérêt général. Si ça, demain, ça se retrouve devant un tribunal de commerce où on sait que les juges ne sont pas des juges spécialisés en droit de la presse, ce sont des juges consulaires, ce ne sont pas des juges professionnels, la plupart du temps ils viennent du monde de l'entreprise, et tout à coup, voir ces affaires jugées par des juges de tribunaux de commerce, oui, ça nous inquiète, réellement.
Vous, c'est ce que vous dites aussi dans cette lettre ouverte, c'est qu'il y a une inversion de la charge de la preuve, une inversion de la logique.
Oui, complètement, il y a une inversion de la logique. Ça va être en gros à nous, à prouver, encore une fois, qu'on travaille dans le sens de l'intérêt général et qu'on est apte à le faire. C'est pas à nous de le faire. Donc cette inversion de la charge de la preuve, pour nous, elle est effectivement extrêmement dangereuse, oui.
Le texte passe au Sénat cet après-midi,
oui. Il
reviendra en commission mixte paritaire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, des parlementaires ?
Je pense qu'il faut qu'on les mobilise tous. J'invite tous ceux qui nous écoutent à signer la pétition Stop Secret des Affaires. Il y a déjà 330 000 personnes, mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que sur la directive européenne, on avait été plus de 500 000. Donc ça, c'est la première chose. Puis nous, on travaille énormément. On va voir les parlementaires et on essaie de leur expliquer en quoi, effectivement, ce texte qui, pour la plupart, ne leur paraît pas dangereux, l'est en fait, parce que ça va être à l'interprétation de chacun. De chacun, par exemple, des juges des tribunaux de commerce. Et la jurisprudence nous fait très peur. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Conforama et Challenge. Bon, là, en l'occurrence, c'est une jurisprudence qui nous fait peur. C'est-à-dire qu'à un moment, on a interdit à Challenge de citer le nom de Conforama, qui était dans une situation économique difficile. en disant « Ah non, secret des affaires, là vous n'avez pas le droit de dire ça, en ce moment vous mettez l'entreprise en danger ». C'était une information qui publiquement était intéressante pour beaucoup de lecteurs.
Merci beaucoup à vous Élise Lucet d'avoir accepté cette invitation dans le journal de France Culture.
Merci à vous Antoine.
La douceur s'installe en France, le soleil également. Cet après-midi c'est à Caen qu'il fera le plus frais avec 18 degrés seulement, 22 à Marseille, 26 à Paris, 28 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Aurélie Kiefer.